Depuis 10 ans, je fais le clown. Et vous le savez bien, c'est pour ça que vous venez très nombreux. C'est du spectacle. Je parle devant la moitié d'humains et la moitié de magnétophones.
Tu pipotes pas un peu, toi ?
Ben jamais je pipote.
Indiscipline.
Je souscris tout à fait à la notion d'indiscipline qui ne consiste pas du tout à supprimer ou mépriser les disciplines où les gens définissent un périmètre et creusent ce périmètre avec un certain nombre de méthodes, mais qui consiste à dire en plus des disciplines, il faut adopter une attitude et des pratiques qui questionnent toute frontière disciplinaire.
Bienvenue dans le tout premier numéro d'Indiscipline sur Transistor, une nouvelle émission qui a pour but de vous inviter à penser sous la forme d'un abécédaire frondeur et indiscipliné. En partenariat avec les médiations philosophiques, nous vous proposons de prendre de la distance, de réfléchir et d'éclairer un mot sous les lumières croisées de la philosophie, mais aussi des sciences, des arts, des lettres ou encore de la politique. C'est Yves Citon que vous avez entendu dans le générique, dans un extrait de l'émission La Suite dans les idées, produite par Sylvain Bourmeau sur France Culture, qui nous a inspiré le nom de cette émission, pour toujours mieux dépasser les frontières et les genres, pour une pensée en mouvement et en dialogue. Et quel autre mot que le verbe désobéir pour ouvrir cet abécédaire indocile ? De la dissidence civique aux appels à l'insurrection, des lanceurs d'alerte aux nouveaux zadistes, des personnes qui passent la nuit debout à celles et ceux qui chaque jour, de toutes les façons possibles, refusent le conformisme général et l'inertie du monde, désobéir n'a jamais paru aussi urgent. Comme le souligne Frédéric Gros dans son dernier essai, ce monde, avec ses inégalités abyssales, l'effondrement de ses assises naturelles, sa course en avant suicidaire, ce monde que nous laissons comme un legs nauséabond aux générations futures, c'est le nôtre. Et quand je dis nôtre, ce n'est pas seulement pour dire aujourd'hui par rapport à hier. Je dis nôtre pour dire le monde que nous avons construit, dont nous avons accepté qu'il s'édifie depuis plusieurs décennies déjà, le monde en tout cas que nous laisserons à ceux qui viendront après nous. Ils nous trouveront d'un égoïsme dément, d'une irresponsabilité mortelle. Et pourquoi n'avoir rien dit ? Pourquoi devant l'imminence de la catastrophe restons-nous encore aujourd'hui à ce point les bras ballants et les yeux, je ne dis même pas résignés, mais cherchant à regarder ailleurs ? Pourquoi avons-nous laissé faire ? Pourquoi nous être comportés en spectateurs du désastre ? Pourquoi désobéir ? Il suffit d'ouvrir les yeux. Elle est même à ce point justifiée, normale, que ce qui choque, c'est l'absence de réaction, la passivité. Pourquoi donc, et qu'est-ce que désobéir ? Sur quoi se fonde cette ressource du soi politique ? En quelques numéros, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait ce choix. Nous nous pencherons sur ceux qui ont pensé la désobéissance pour tenter d'en approcher les enjeux et les contradictions. Premier épisode, délit d'hospitalité.
C'est pas un camp humanitaire, c'est pas humanitaire, il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. C'est une jungle, c'est une jungle, quoi. Si on ne dit pas que c'est Calais, personne ne devinerait que c'est la France. C'est la honte de la France, cet endroit.
Il pensait rester quelques jours. Il se retrouve coincé ici pendant des mois. La vie dans la jungle est extrêmement précaire. Des repas cuisinés et pris à même le sol. De rares accès à l'eau. Des sanitaires insuffisants.
La ville, l'État n'a pas fait d'aménagement, elle le fait toujours en retard. On ne peut pas nier les petits pas en avant qui ont été faits. Mais c'est jamais à la hauteur des besoins puisqu'ils commencent toujours en retard.
Je comprends pour le vivre, je dirais, en tant que maire, puisque je vois beaucoup de transporteurs, beaucoup de salariés du port, mais aussi des riverains. Et donc, très clairement, on n'en peut plus, on n'en peut plus.
Nous avons depuis le début de l'année procédé à l'éloignement de 1500 personnes.
On parle d'expulsion.
C'est 20% de plus, oui. Des reconduites à la frontière, c'est 20% de plus que l'an dernier. Et nous le faisons beaucoup dans le cadre d'opérations qui sont construites avec les Britanniques.
Cette situation, si on veut y répondre, mais c'est d'abord des droits. Et des droits
insurpassable. Il faut bien comprendre que le droit à l'abri, le droit à la nourriture, le droit à la boisson, le droit à ne pas être traité de manière inhumaine, à ne pas être exploité sexuellement, etc., ce sont des droits de base pour l'ensemble de l'humanité, pas seulement pour quelques personnes privilégiées.
Notre pays a mis en place un système qui est perdant pour tout le monde. Un traitement indigne dans les premières semaines et les premiers mois. Des délais beaucoup trop longs qui fait que des concitoyens futurs ou des femmes et des hommes venant d'autres pays qui n'ont aucune chance d'avoir in fine la nationalité s'installent dans une précarité coupable et ne repartent plus.
Pour pouvoir avoir une grande humanité, il faut en même temps avoir une grande fermeté.
Hier encore, vers 5h du matin, ils nous ont réveillés avec du gaz, en criant « dégagez, dégagez », comme si on était des animaux.
Les guerres civiles n'ont pas seulement été plus cruelles et plus sanglantes que les précédentes, elles ont entraîné l'immigration de groupes qui n'ont été accueillis nulle part. Une fois qu'ils ont quitté leur patrie, ils se sont retrouvés sans patrie. Une fois qu'ils ont abandonné leur état, ils sont devenus apatrides. Une fois qu'ils ont été privés des droits que leur humanité leur conférait, ils se sont retrouvés sans droit, la lie de la terre. Rien de ce qui était en train de se faire, quel que fût le nombre de gens qui en connaissaient et qui en prédisaient les conséquences, ne peut être défait ou évité. Le moindre événement a pris l'inéluctabilité d'un jugement dernier, jugement qui ne serait l'œuvre ni de Dieu ni du diable, mais ressemblerait plutôt à l'expression de quelque irrémédiable et stupide fatalité.
Voilà un an que le camp de Calais a été démantelé. Fin octobre 2016, l'État français a transféré plus de 7000 personnes en région vers les centres d'accueil et d'orientation, les CAO. Je reçois aujourd'hui François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des Migrants, pour en parler. Bonjour François Guénoc.
Bonjour. Bonjour.
L'Auberge des Migrants agit sur place à Calais depuis maintenant 2008. Vous apportez une aide matérielle d'urgence aux personnes en exil, en lien avec d'autres associations aussi sur le terrain. Une première question très très simple, la situation générale depuis un an, depuis le démantèlement de la jungle, s'est-elle améliorée?
Alors si on prend d'abord les chiffres, après le démantèlement, il restait probablement à peu près une centaine d'exilés ici dans le secteur du Calaisis, la plupart logés chez des citoyens calaisiens. Le nombre a augmenté pendant le printemps, à peu près 300 au mois de mars, est arrivé à peu près à 700 en juin et s'est à peu près stabilisé depuis. On fait des recensements une fois par mois. On a compté au dernier recensement, il y a un mois, 595 personnes par plusieurs personnes au même moment sur plusieurs endroits, ce qui fait qu'on estime le nombre total à peu près à 700. Ce chiffre est à peu près stable, mais en réalité, ça cache un certain turnover. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, d'Italie ou des déboutés du droit d'asile d'Allemagne, par exemple, des Soudanais aussi qui sont arrivés de Bruxelles assez récemment. Ils avaient peur d'être expulsés directement. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui réussissent à passer, d'autres qui repartent ailleurs tenter leur chance et d'autres qui sont arrêtés et mis en rétention, quelquefois libérés mais quelquefois aussi expulsés. Mmh. La situation matérielle des personnes est très difficile puisqu'ils ne peuvent pas s'abriter nulle part. La police enlève tout début de camp, détruit tout début de camp, enlève les bâches, les tentes qu'elle trouve, y compris duvet, couverture et quelquefois, assez souvent même affaires personnelles des migrants. Donc leurs conditions de vie sont très difficiles et en fait, ils dépendent entièrement ou presque de l'aide humanitaire, donc apportée notamment par l'Auberge des Migrants, mais pas que.
L'État met en effet en avant le bilan sécuritaire. Il y aurait moins de squats, mais aussi moins d'intrusions dans le routinel. Est-ce que ça veut dire globalement aussi que la situation s'est pacifiée?
Alors la situation, effectivement, se caractérise par un nombre bien inférieur d'exilés, mais comme je vous le dis, avec des conditions de vie très difficiles, c'est certain que les passages au tunnel sont devenus probablement impossibles, sauf si des gens arrivent à se cacher dans un camion très en amont, hein, comme c'est maintenant la pratique des passeurs, qui travaillent à partir de peut-être Amiens, Reims, Paris, etc. Donc ils arrivent à cacher des gens dans les camions, quelquefois avec la complicité des chauffeurs. Donc il ne faut pas dire que ça passe plus au tunnel, mais ça passe, disons, plus directement, comme ça se faisait. Ça s'était fait surtout au cours de l'été juillet 2015, où les exilés passer les barrières et arriver à monter sur les navettes, sur les trains qui font le tunnel. Situation pacifiée, pas exactement, parce que la police est très présente et très violente vis-à-vis des exilés, quelquefois même vis-à-vis des bénévoles. Et les exilés sont dans une situation terrible de stress, de fatigue, et avec un petit peu de consommation d'alcool pour quelques-uns d'entre eux, il y a pas mal de tensions et quelquefois des bagarres entre exilés eux-mêmes, entre groupes. Donc, quelquefois aussi attisé par des passeurs. Donc, on ne peut pas dire que la situation est pacifiée. On ne peut pas dire que la frontière est complètement étanche. C'est pas vrai, ça passe difficilement, mais ça passe. Et on ne peut pas dire que l'objectif du gouvernement, qui était qu'il n'y ait plus de migrants à Calais, plus d'exilés à Calais, soit atteint.
Mmh. Justement, quelle est votre réponse à ceux qui disent qu'il faut à tout prix éviter un nouvel appel d'air, de nouveaux points de fixation?
Bon, nous, on réclame l'ouverture de centres d'accueil à dimension humaine. Il est certain que si on les ouvre qu'à Calais, les gens vont arriver à Calais. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y avait autant de monde sur le camp, c'est que les conditions d'accueil étaient inexistantes ou tellement mauvaises dans d'autres villes que les gens venaient à Calais parce qu'au camp, ils avaient un minimum, c'est-à-dire un abri, de l'aide, une vie sociale, etc. Donc, il est certain que si on arrivait à obtenir l'ouverture de centres d'accueil ici à Calais, ou à proximité, des gens arriveraient. Donc le problème en France, c'est le premier accueil partout. Vous avez, dit-on, 3000 personnes dans les rues à Paris, il y en a 600 sur un très très mauvais camp à Metz, il y en a dans les rues à Briançon, à Nice, etc. Il y a partout. Et donc évidemment, il faudrait ouvrir des centres d'accueil partout, ce qui éviterait, entre guillemets, cet effet appel d'air.
Vous avez parlé du harcèlement policier à l'encontre des migrants. Est-ce que vous-même, en tant que bénévole, en tant qu'association, est-ce que vous vivez aussi au quotidien cette pression policière?
Alors, on a eu de très fortes pressions entre le mois de février et mars, moment où le nombre d'exilés a commencé à augmenter, et fin août. Cette pression prenait plusieurs formes. Interdiction physique de distribuer de la nourriture à certains endroits, procès-verbaux, plus de procès-verbaux sur nos véhicules, contrôle d'identité incessant sur nos bénévoles, pression morale, etc. Ça s'est beaucoup calmé depuis fin août parce que, comme vous le savez sans doute, le tribunal administratif approuvé par le Conseil d'État a condamné le gouvernement à mettre en place un certain nombre de choses, un minimum, de l'eau, des douches et des toilettes pour les exilés à Calais. Et dans les considérants du tribunal, il y avait aussi des phrases sur le fait que le gouvernement n'avait pas le droit d'empêcher les bénévoles de travailler. Mmh. Donc ça s'est un petit peu arrangé, mais encore récemment, on a eu un certain nombre de pressions policières. Quelque part, comme le dit clairement la maire de Calais, mais comme le pensent sans doute aussi les autorités, le préfet, le sous-préfet, toutes ces personnes considèrent que c'est à cause des associations qu'il y a des migrants à Calais, alors que bien évidemment, c'est pas à cause de nous, c'est parce que l'Angleterre n'est pas loin.
J'allais justement évoquer vos relations avec notamment la maire de Calais, Natacha Bouchard. Est-ce que le dialogue existe avec l'autorité publique sur place? Est-ce qu'au moins vous arrivez à vous parler, à vous réunir et échanger?
Alors nous, on est toujours demandeurs de dialogue, mais la réalité des choses, c'est la suivante, c'est que la mairie de Calais a dialogué avec les associations jusqu'au printemps 2014. Il y avait même un conseil des migrants qui se réunissait une fois par mois, où il y avait un peu de dialogue entre la mairie, entre la maire et les associations. On est passé ensuite à une deuxième phase où la mairie a collaboré entièrement avec l'État, avec Cazeneuve en l'occurrence, ministre de l'Intérieur, pour écarter les migrants du centre-ville et mettre en place quand même un minimum humanitaire. Ça a été le centre Jules Ferry et le centre d'accueil provisoire, les conteneurs. On est passé depuis cet été à une troisième phase où la mairie s'est complètement mise en retrait de l'action du gouvernement, refuse de collaborer avec le gouvernement et nous diabolise. Il faut voir les dernières déclarations de Madame Bouchard qui nous accuse de faire du beurre en fait sur le dos des exilés, alors ce qui est absolument scandaleux bien sûr. Aujourd'hui non, il n'y a plus du tout de dialogue, et non seulement il n'y a plus de dialogue, mais il y a même des accusations très fortes lancées par Madame Bouchard qui font qu'on est en train de réfléchir sur une plainte ou des plaintes pour diffamation.
Effectivement, vous poursuivez également le combat sur le terrain légal. C'est important d'avoir le droit comme ça à vos côtés pour continuer vos actions et continuer à aider les exilés.
Un de nos principaux combats, hélas, parce qu'on y passe du temps, de l'énergie et même on dépense de l'argent, c'est d'essayer de faire appliquer le droit. Mmh. Nous, on est une organisation humanitaire, on apporte de l'aide matérielle, c'est notre principal objectif, ça reste notre principale activité, mais on est bien obligé d'aller en justice pour essayer d'obtenir l'application du droit. Et de plus, on essaye de s'associer aussi notamment aux grandes ONG nationales pour dénoncer actuellement, essayer de freiner les aggravations de la loi, des lois que met en place le gouvernement, notamment sur les délais de rétention des exilés, sur un certain nombre de points. On risque plutôt un gros recul et on se situe aussi sur ce terrain-là avec, mais là bien évidemment pas tout seul, avec les autres associations ou ONG qui aident les exilés. Il y a aussi la Défenseur des droits des enfants, il y a aussi la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, si je ne me trompe pas, il y a aussi l'équivalent européen, on a également l'ONU qui a apporté une appréciation sur l'insuffisance du dispositif ici à Calais concernant l'accueil des exilés. Il y a un certain nombre d'instances qui, je pense aussi à Human Rights Watch sur la question des violences policières. Le problème, c'est que toutes ces instances n'ont pas, ont peut-être un poids moral, mais n'ont pas le poids suffisant pour obliger le gouvernement à changer de politique. Mais on le fait quand même parce que c'est très important pour nous, notamment pour montrer la légitimité de nos actions. Mmh. Et l'illégitimité, au contraire, de beaucoup d'actions du gouvernement.
Et vous faites aussi, dans cette idée-là, vous faites beaucoup d'efforts justement pour prendre des photos, diffuser des vidéos, des documents juridiques, notamment sur les réseaux sociaux et puis via votre site internet. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, votre but, c'est aussi de toucher au-delà de Calais, toucher entre guillemets la population, de nous pousser comme société à l'action, de faire du bruit, de lutter contre l'indifférence ?
C'est tout ça, effectivement. C'est empêcher qu'on oublie l'existence des exilés, dont l'État essaie d'organiser l'invisibilité. C'est aussi pour nous une façon donc d'étayer des démarches en justice et d'en appeler à l'opinion publique. On a aussi besoin, et il faut être réaliste, on a aussi besoin de communiquer parce qu'on vit entièrement de donations. Et c'est seulement si on communique sur notre action et sur les difficultés aussi de nos actions et sur le rôle de l'État qu'on peut inciter des citoyens ou des associations ou des groupes ou des paroisses, etc., à nous aider. C'est le budget de l'association 2017 qui tourne autour de 600 000 euros et est entièrement assuré par des donations en partie étrangères, britanniques notamment et en grande partie françaises.
Vous venez de le rappeler, vous vous reposez essentiellement sur la bonne volonté des gens, sur des bénévoles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu dans la position de David contre Goliath ?
Oui, mais on n'est pas les seuls. Hein. Quand on regarde ce qui se passe à la Roya, à la frontière italienne, les condamnations des militants et bénévoles qui aident les exilés, quand on voit les difficultés aussi pour travailler à Paris pour Médecins sans frontières et Utopia 56, on n'est pas les seuls à devoir travailler dans la difficulté. Et la difficulté, elle n'est pas principalement dans notre travail proprement dit d'aide matérielle, parce que ça, on est quand même expérimenté et on arrive tant bien que mal à avoir les moyens de travailler. Elle est plus effectivement dans les relations avec l'État. Au départ, et encore maintenant, on est d'abord une organisation humanitaire, mais hélas, on se trouve très souvent non seulement à côté de l'État pour faire ce qu'il ne fait pas, mais quelquefois en face de l'État et de pratiques illégales et inacceptables, et même quelquefois contre l'État, puisqu'on est obligé d'agir notamment en démarchant les tribunaux. Quoi. Mmh.
Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui, au jour le jour, dans cette lutte ? La colère, est-ce que vous ne ressentez pas un peu de lassitude quand même ?
Lassitude, ça peut arriver à des personnes. L'association, elle continue, elle s'est développée et elle s'est adaptée à la situation. Ça peut être effectivement le cas de certaines personnes parce que il y a des gens qui s'investissent beaucoup auprès des migrants, même quelquefois trop, et ils en oublient de se protéger eux-mêmes. Et effectivement, il y a des phénomènes qui sont proches du burn-out quelquefois chez nos bénévoles. Ce qui nous anime, non, c'est toujours plutôt les besoins. C'est-à-dire qu'on a des humains, des gens à qui on serre la main, qu'on connaît, même s'ils vivent un peu comme des bêtes sauvages et qu'on a du mal à avoir des relations suivies avec eux, donc c'est ça qui nous anime. Alors après, nos émotions, effectivement, c'est souvent la colère, l'incompréhension et la colère par rapport aux actions de l'État, la colère aussi quand il y a des morts, parce que Il y a encore les restes d'un piéton qui ont été trouvés sur l'autoroute A16. C'est très probablement un migrant. C'est pas le premier. On est à peu près à 200 morts ici sur la frontière depuis 2000. Donc ça, ça nous choque beaucoup. Après, on a aussi des émotions positives. Vous savez, aider les personnes dans la rue, c'est aussi des relations d'amitié qui se nouent. De la reconnaissance, même si c'est pas ça qu'on attend. Hein. Quand on aide les personnes, elles sont pas forcément reconnaissantes. Et après tout, c'est assez normal. Il y en a quelquefois même qui sont en colère contre nous parce qu'on est les riches et eux, ils sont les pauvres, ils dépendent de nous. Donc il y a toutes sortes de modalités de relations avec les migrants, mais ça nous porte aussi, c'est le sentiment d'être utile.
Pour finir, un dernier point, François Guénoc. Vous gérez au jour le jour l'urgence sur le terrain. Quel est votre regard un peu plus global sur la situation d'ensemble, sur peut-être les réponses structurelles que l'État ou même l'Europe devrait apporter ?
Si on est capable de prendre un grand recul historique, on est sur une vague de migration en direction de l'Europe. C'est pas la première. On en a eu beaucoup et donc à chaque fois elles sont difficiles à accepter pour une partie de la population et quelquefois par les autorités. Après, si on se rapproche un peu du problème, nous on voit bien que l'Europe est absolument incapable de faire face à ce qui n'est pas une vague massive, ce qui est une vague significative, mais qui est sur un phénomène qui serait tout à fait, avec un peu de bonne volonté et pas tant que ça d'argent, on pourrait arriver à accueillir ces personnes. Il faut savoir que ça coûte beaucoup plus cher d'essayer de les garder à l'extérieur, de les empêcher de passer la frontière, de les refouler, que de les accueillir. Donc on voit bien que cette politique-là, européenne, elle fonctionne pas. Elle est coûteuse, elle est inhumaine, elle est inefficace. Quand on voit l'Europe qui essaie de traiter avec des bandes armées en Libye pour empêcher les migrants de partir, quand on voit les accords avec la Turquie, on peut pas être d'accord. En pleine vague migratoire en 2015, je crois que c'était là que l'Allemagne accueillait 1 million de personnes, quand on fait le calcul, il n'y avait jamais qu'un migrant qui arrivait pour environ 1000 Européens. Donc c'est tout à fait jouable. Après, je finis en disant que nous-mêmes, on envoie des tas de migrants économiques dans le monde entier. Et on sait bien quand on circule, ne serait-ce que dans le métro à Paris, mais dans la plupart des grandes villes françaises, que la société multicolore, multiculturelle, elle existe déjà. Et donc, elle vit plus ou moins bien, mais elle existe déjà. Et donc, on est capable d'assimiler des populations qui arrivent, d'autant plus que souvent, ces personnes-là, si on les accueille, elles seront là que pour quelques années, elles retourneront dans leur pays quand la situation sera meilleure.
Je rappelle donc François Guénoc que vous êtes vice-président de l'association L'Auberge des Migrants, qu'on peut évidemment aider. Alors sur votre site internet, il y a plusieurs moyens. On peut évidemment faire des dons, mais aussi aller sur place, ne serait-ce que pour 1 ou 2 jours, vous aider dans vos tâches quotidiennes. Il s'agit de savoir comment transformer et faire progresser le droit. Et de savoir si ce progrès est possible dans un espace historique qui se tient entre la loi d'une hospitalité inconditionnelle, offerte a priori à tout autre, à tout arrivant, quel qu'il soit, et les lois conditionnelles d'un droit à l'hospitalité, sans lequel la loi de l'hospitalité inconditionnelle risquerait de rester un désir pieux, irresponsable, sans forme et sans effectivité, voire de se pervertir à chaque instant. Expérience et expérimentation donc. Notre expérience des villes-refuges, alors, ne serait pas seulement ce qu'elle doit être sans attendre, à savoir une réponse d'urgence, une réponse juste, en tout cas plus juste que le droit existant, une réponse immédiate au crime, à la violence, à la persécution. Cette expérience des villes-refuges, je l'imagine aussi comme ce qui donne lieu, un lieu de pensée. Et c'est encore l'asile ou l'hospitalité, à l'expérimentation d'un droit et d'une démocratie à venir. Sur le seuil de ces villes, de ces nouvelles villes qui seraient autre chose que des villes nouvelles, une certaine idée du cosmopolitisme, une autre, n'est peut-être pas encore arrivée. Si elle est arrivée, alors on n'a peut-être pas encore reconnu.